Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver et de passer une heure avec vous jusqu'à midi. Au programme de notre balade musicale du jour, nous irons du classique au jazz, en compagnie de notre invité le pianiste Hervé Sélin, qui sort sous le label Indécence Calliope, un nouvel opus revisitant le monde musical d'Éric Satie après ceux de Debussy, Ravel et Fauré. Et nous échangerons aussi sur les nouveautés marquantes du jazz, dont le dernier album solo inédit de Keith Jarrett, New Vienna, une captation faite lors de sa dernière tournée en Europe, avant ses accidents de santé qui ont stoppé son immense carrière. Bonjour Hervé Sélin.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à notre micro d'IDFM Radio. Vous avez reçu une formation classique au Conservatoire de Paris. En particulier, vous avez passé plusieurs années dans la classe du grand Aldo Ciccolini. Mais votre passion et votre éclectisme vous ont conduit à faire une superbe carrière de pianiste de jazz. Vous avez croisé la route de très grands musiciens, Dizzy Gillespie, Art Farmer, Barney Whelan, Chet Baker, beaucoup d'autres, particulièrement le saxophoniste Johnny Griffin, dont vous avez été le pianiste attitré pendant une quinzaine d'années.
Ouais.
Vous avez également accompagné pendant plusieurs années la chanteuse Didi Bridgewater. Vous avez enregistré des albums superbes avec le saxophoniste Branford Marsalis, l'accordéoniste Richard Galliano autour de la musique d'Astor Piazzolla, le trompettiste Wynton Marsalis, le saxophoniste Pierrick Pedron et le batteur Daniel Humer. Bref, tout le gratin du jazz. Vous avez aussi reçu le prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz pour l'ensemble de vos activités de pianiste, compositeur et arrangeur. Et dans la continuité de vos albums Debussy et Fauré-Ravel, dont vous étiez venu nous parler à ce micro, c'est aujourd'hui un nouvel opus de vos jazz impressions, inspiré par un autre compositeur français, sans doute moins reconnu que les trois premiers, mais qui a une importance tout à fait particulière dans la musique moderne. Éric Satie. Pour quelle raison, Hervé Sélin ?
Vous avez tout dit, en fait. C'est parce que, justement, il a une importance très particulière. C'est Aldo Ciccolini qui disait « Si Satie n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer ». Mais c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, après Debussy, Ravel, après la naissance de l'impressionnisme, le post-romantisme, il fallait trouver une autre voie. Et cette voie, ça a été ce qu'a proposé Éric Satie. Parce que après Debussy, après Ravel, si c'était pour refaire, je dirais pas refaire la même chose, mais copier ou suivre les traces, ça aurait été compliqué. Alors que Satie, de par sa personnalité, de toute façon, il était dans un monde différent et il a apporté quelque chose de différent qui a énormément inspiré à la fois les mélomanes, les musiciens classiques, mais aussi la musique de jazz.
Et aussi peut-être ce qu'on a pu appeler les gymnopédistes. Moi, je pense, si vous me permettez ce terme, je pensais aux compositeurs américains comme Phil Glass ou John Cage, peut-être.
Oui,
aussi.
Oui. Bah, John Cage est celui qui a fait connaître la musique de Satie aux États-Unis, et ils se sont énormément inspirés de lui dans le phénomène du minimalisme, de la musique répétitive, de la modalité aussi, de certains refus de l'écriture traditionnelle, y compris chez Debussy et Ravel, qui venaient eux de toute façon de la grande histoire de la musique savante et de la musique écrite. Satie, c'est un ovni, hein, de toute façon, à tout point de vue, parce que humainement parlant, c'est pareil, c'était quelqu'un de totalement à part et totalement iconoclaste, et sa musique, elle lui ressemble bien.
Est-ce que c'est votre professeur Aldo Ciccolini qui vous a, au fond, est-ce qu'une réminiscence de ces années passées avec Aldo qui vous ont dit, au fond, pourquoi pas maintenant Eric Satie, puis sachant qu'Aldo Ciccolini est quand même, je crois, le pianiste qui a fait vraiment découvrir, et en tout cas est démocratisé, entre guillemets, la musique d'Eric Satie. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui a enregistré la première intégrale.
Oui, absolument, et c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il est celui quand même qui a légitimé Satie une fois pour toutes. Alors que bon, on considérait pas tellement Satie comme quelqu'un d'important. Ravel l'a beaucoup défendu aussi à l'époque, mais bon, plus proche de nous, évidemment, Aldo Ciccolini, c'était dans les années 60 qu'il a enregistré la première intégrale des œuvres pour piano, et ça c'était important. Et après évidemment, pour moi, l'héritage d'Aldo Ciccolini, c'est aussi l'héritage de cette voie parallèle, de cette façon différente d'aborder, parce que finalement Aldo était quelqu'un qui se mettait toujours au service du compositeur. Et donc, je pense que d'avoir embrassé de manière aussi profonde l'identité d'un Eric Satie lui a donné aussi une autre approche de la musique de Liszt ou de Schubert ou de Debussy, qu'il a beaucoup enregistré. Et en fait, Satie, comme beaucoup de musiciens français, qu'il a aussi beaucoup été découvrir et enregistrer, donner un côté vraiment unique à sa manière d'approcher la musique tout court. Et c'est aussi ça qu'il nous inculquait au conservatoire. C'est-à-dire le respect du compositeur et après l'élévation par rapport à la musique que l'on jouait, tout en restant complètement effacé derrière l'œuvre.
Et le lien avec le jazz, puisque...
Il est là par la force des choses, parce que justement ce côté très très répétitif, minimaliste, et puis cette modalité qui arrivait après un foisonnement presque étouffant de multitonalité ou de polytonalité ou d'harmonie échevelée, chez Satie il y a une simplicité, un dépouillement et surtout une expression de l'instant et de la simplicité qui parle beaucoup à beaucoup de jazz musiciens.
C'est vrai qu'on sortait du post-romantisme de Wagner, donc c'était complètement, c'est une opposition en réalité.
Oui, absolument. Le jazz, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que il y a eu le bebop qui était un petit peu, on pourrait presque dire la wagnerisation du jazz, c'est-à-dire le bebop, le hard bop.
Je vous laisse le terme.
Et quand t'es arrivé, oui, ça va pas. Bon, je me revendique.
Mais je comprends tout à fait.
Je m'en excuse d'avance.
Ce que vous dites.
Mais après le bebop, le hard bop, le free jazz, même pendant le bebop, il y a eu le jazz cool qui a introduit la modalité dans le jazz, et puis le sens de l'espace, de la retenue, du vide, du silence. Et là, Satie était tout à fait dans l'air du temps, quoi.
C'était la seconde manière de Miles Davis.
Complètement. Ouais. Miles Davis n'en a pas eu que deux.
Il en a eu beaucoup.
Il a été de toutes les révolutions dans le jazz.
C'est un peu le Picasso du jazz.
Oui, un peu, peut-être. Mais c'est surtout quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il a été à l'origine, parmi les musiciens qui ont créé le bebop, il a été un des musiciens qui a créé le jazz cool, le jazz hard bop, le free jazz, le jazz rock. Et s'il était encore là aujourd'hui, il créerait encore autre chose.
Ah, certainement.
Absolument.
On va débuter l'écoute de votre disque. Et là, on va aller dans un cabaret, c'est le Chat Noir, à Montmartre, avec Je te veux, Hervé Sellin piano, Christelle Raquillet flûte, Cyril Drapé contrebasse. Nous étions dans l'ambiance du Chat Noir de Montmartre à la belle époque. C'était « Je te veux » d'Éric Satie, avec une mention particulière à la flûtiste Christelle Raquillet. C'est la première fois que vous enregistriez avec elle ?
Alors Christelle, je la connais depuis longtemps parce qu'elle a été mon élève au Conservatoire de Paris, au département de jazz et musique improvisée. Donc j'ai tout de suite vu et on a tous vu que c'était vraiment une musicienne remarquable. Et donc il y a certains musiciens comme ça, même beaucoup, hein, on a eu la chance d'avoir vraiment de très très bons musiciens issus de cette classe au département de jazz au CNSM. Et donc il y en a avec qui on garde des liens et dès qu'on peut on fait des projets avec eux. Et donc Cyril Drapé, le contrebassiste aussi d'ailleurs, comme les deux autres qui sont sur d'autres titres, Rémi Fox le saxophoniste et Romain Lay le vibraphoniste, ce sont tous des élèves que j'ai eu au conservatoire. Donc ça me fait vraiment plaisir de les mettre en lumière et de collaborer avec eux, et surtout que Christelle commence à faire vraiment une carrière pour elle. Elle est extrêmement sollicitée et c'est vraiment quelqu'un de remarquable.
Mais c'est le plaisir de la transmission.
Absolument.
Le Chat Noir, c'était une époque où vraiment Éric Satie était en très grande difficulté.
C'est les débuts d'Éric Satie où en fait il cherchait du boulot, quoi, tout simplement. Donc en tant que pianiste, il était accompagnateur de chanteurs dans les cabarets, et notamment au Chat Noir. Et je crois que cette chanson « Je te veux » est une commande, je sais plus si c'est le cabaret ou un chanteur en particulier, d'écrire une chanson vraiment dans l'esprit des chansons cabaret des années 20. Et l'original est très très empreinte de cette alors moi je l'ai évidemment détourné
oui, bien entendu,
loisir.
Heureusement. Vous avez fait tout un travail de créateur.
Oui, alors
de recréateur.
C'est ça qui est important, et sans prétention aucune, c'est que j'essaie dans ces projets de ne pas être seulement celui qui jazzifie la musique classique, mais de reprendre le matériau et d'en faire quelque chose de nouveau et d'y mettre vraiment une patte personnelle qui peut s'apparenter à la véritable création.
Précisément dans la première gymnopédie d'Éric Satie que tout le monde connaît, mais au départ, quand on écoute la version que vous avez écrite, c'est très différent. Et pourtant, on retrouve un peu le thème, mais on retrouve l'esprit. Mais c'est une vraie création.
C'est-à-dire que si j'avais juste repris la mélodie existante avec un accompagnement un peu jazzy derrière, c'est ce que j'entends beaucoup, surtout en ce moment, puisque c'est l'année Satie. Ça n'a aucun intérêt, puis c'est pas de très bon goût. Donc l'intérêt, c'est d'aller plus loin. J'ai même des gens qui m'ont dit, mais moi la première gymnopédie, je l'entends pas dans ton truc. Et puis réécoute deux fois, trois fois, et là ça ressort, ça s'illumine. Et ouais. Et ça me plaît bien, ça.
Le thème, on ne le voit pas au départ, et puis ensuite on le retrouve un peu dans un arrangement absolument délicieux. Il faut bien.
Mais il est là le thème au début, parce qu'en fait chaque note du thème est isolée. Et jouer à une octave différente du piano.
Ah, d'accord. Oui.
Mais les premières notes de piano, c'est le thème de Satie, sauf qu'ils sont pas joués au même endroit, selon le même contour, avec la même gestion du motif.
C'est ça tout l'art de la recréation.
Oui, j'ai rien inventé, mais
quand même,
j'essaie toujours de me mettre en danger relatif. Et puis de me dire, il faut que je fasse quelque chose que j'ai encore pas fait ou que. Sinon, ça m'intéresse pas.
Mais ce thème, pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment, ça nous rappelle cette interprétation bouleversante de Maurice René dans Le Feu Follet, qui était un film magnifique de Louis Malle, dans l'adaptation du roman de Drieu La Rochelle. Vraiment très très beau. Nous sommes au milieu des années 60. D'accord. C'est un peu la nouvelle vague, au moment de Godard, Truffaut. Mmh. Et vraiment, c'était un film absolument remarquable. Et avec ce suicide à la fin, à l'hôtel, on est à l'hôtel du Quai Voltaire, notamment. Enfin, c'est vraiment un quartier. C'est assez bouleversant comme musique, mais là, c'est autre chose. Pour vous, on n'est pas bouleversé, on est séduit et charmé.
J'espère.
Eh bien, première gymnopédie, inspirée d'Éric Satie, par le trio de notre invité Hervé Sellin, avec Christelle Raquillet, flûte, Cyril Drapé, contrebasse. Thank you. première gymnopédie d'après Eric Satie par le trio du pianiste Hervé Sellin, extrait de son nouvel album Eric Satie Jazz Impression, sorti chez Indécence Calliope Records, qui vient d'être couronné par un choc de Jazz Magazine. Une autre pièce emblématique de Satie, la deuxième gnossienne. Comment l'entendez-vous, Hervé Sellin?
En fait, c'est le même principe, c'est-à-dire que c'était incontournable de passer par les gymnopédies, les gnossiennes, parce que ce sont des œuvres emblématiques, donc et très connues. Après, l'idée, c'est d'en faire autre chose, de récupérer le matériau et puis d'aller ailleurs, même parfois un peu loin, au risque de déplaire. Mais ça, c'est bon, quand on s'engage, quand on prend des risques, on peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le challenge de dire que on entend ça autrement. Ce n'est pas juste une illustration ou un habillage, c'est une recréation complète.
Mais c'est ça que nous aimons beaucoup chez vous, Hervé Sellin. C'est justement cette prise de risque par rapport à des œuvres qui sont très connues.
Bien sûr. J'espère que ça se voit, ça s'entend et ça s'apprécie. Après, moi, je reste vraiment dans cette idée que finalement la création elle est là, quoi. La création elle est sur la façon dont on s'approprie le matériau.
Deuxième gnossienne par vous, Hervé Sellin, vous êtes en solo sur cette pièce. Notre invité, le pianiste Hervé Sellin, nous offrait son arrangement, assez jazz, il faut le dire, de la deuxième gnossienne d'Eric Satie. Dans votre album, il y a des pièces fameuses, comme les gymnopédies, les gnossiennes, mais aussi des pièces de jeunesse, comme Je te veux, Les anges, Sylvie, et aussi une composition originale de votre plume.
Oui, ben là, c'était le passage obligé par rapport, on parlait d'Aldo Ciccolini tout à l'heure, c'est par rapport à lui aussi, j'avais envie de lui dédier une pièce. Et puis, autant j'ai pas ressenti ce besoin sur Debussy, Ravel ou Fauré, autant sur Satie, où le langage est quand même très proche du jazz actuel finalement, avec cette notion de l'espace, cette notion d'un minimalisme mélodique, harmonique. Je me sentais quand même très inspiré et il y avait une volonté d'aller plus loin que la recréation d'une œuvre existante, mais d'y mettre un petit peu ma patte et d'avoir une œuvre que j'aurais écrite entièrement.
On pense à certains pianistes américains comme Mark Copland, par exemple.
Bien sûr.
Ah oui.
T'es un grand, grand admirateur de Satie, Marc.
On vous écoute, Hervé Sellin, c'est Gymnopédia dédié à votre maître Aldo Ciccolini.
À la manière de...
Thank you.
Gymnopédia de et par notre invité, le pianiste Hervé Sélin, extrait d'un disque délectable, Eric Satie Jazz Impression, sorti chez Indécence Calliope, que nous recommandons à tous les amateurs de classique et de jazz.
Et oui, et classique aussi. Les classiques, les amateurs ou les journalistes ou les critiques sont toujours un peu frileux là-dessus. Parce que c'est trop jazz, justement. Alors après, quand on les rencontre, ou même les organisateurs de festivals classiques, ils disent tout de suite, ah oui, c'est formidable, parce que justement, c'est une autre manière de voir les choses, ça peut nous faire changer notre public, ça peut présenter les choses de manière différente, et puis au moment de conclure, c'est toujours trop jazz.
C'est vraiment bien dommage.
Bah oui.
Les auditeurs, les participants au festival perdent beaucoup, on peut le dire.
Tant pis pour eux.
Eh bien, on va poursuivre ensemble, Hervé Sélin, cette émission avec quelques très belles parutions.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Commençons par un véritable événement, Hervé Sélin. New Vienna, l'album solo inédit de Keith Jarrett, qui vient de fêter ses 80 ans, sort sous le label munichois ECM. Depuis 2016, le pianiste est absent des salles de concert après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux qui l'ont laissé paralysé et sujet à d'importants troubles de la mémoire. En 2025, c'est aussi l'anniversaire des 50 ans de l'un des albums les plus vendus, peut-être celui qui a d'ailleurs été le plus vendu de l'histoire du jazz, son Köln Concert, qui après Facing You faisait éclater son génie de l'improvisation. En 2016, lors de son ultime tournée, Keith Jarrett donnait à Vienne un récital d'une intensité exceptionnelle, n'est-ce pas Hervé Sélin ?
Absolument. De toute façon, Jarrett est lui-même d'une intensité exceptionnelle. Et c'est ce que je retiendrai, moi, c'est ce que j'apprécie le plus, finalement. C'est la densité de son engagement, la densité de sa musique. Et on s'est souvent rendu compte, quand on écoute Keith Jarrett, on a toujours l'impression d'une grande complexité dans ce qu'il fait, de quelque chose de très très haut niveau. Mais quand on relève ce qu'il joue et qu'on l'analyse et qu'on, c'est d'une simplicité absolument déroutante, parce qu'en fait tout est basé sur cet engagement et sur le son et sur la gestion de l'espace et sur les dynamiques, les nuances, les et pas du tout sur la complexité. Et c'est ça qu'on oublie un petit peu chez Keith Jarrett, c'est que c'est pas tellement ce qu'il joue qui est important, c'est la façon dont il le joue. Et puis de ne jamais oublier, c'est ce que je disais toujours à mes élèves, parce qu'il y a eu une espèce de Jarrettomania pendant des années où tout le monde voulait jouer comme Keith Jarrett, et en fait tout le monde jouait pareil, mal. Parce qu'en fait, peu de gens ont vraiment compris l'héritage d'un Keith Jarrett. Et je parle d'héritage parce qu'il est toujours vivant et toujours présent. Mais c'est un pianiste de jazz à la base, Keith Jarrett. Il a joué avec Art Blakey, les Jazz Messengers. Il a suivi les sueurs du jazz, il s'en est imprégné.
Jazz-rock à un moment.
Oui, aussi. Mmh. Et il est devenu Keith Jarrett. Mais si on n'a pas un chemin qui peut ressembler au sien, ou au moins qu'on ait assimilé un chemin pareil, on va prendre que ce qui est sur le dessus d'un Keith Jarrett. C'est-à-dire ce côté Köln Concert, justement, le côté un peu folk, et un peu chanson, et un peu binaire et tout. Et en fait, on fait complètement fausse route. Parce que c'est pas ça Keith Jarrett.
Alors, c'est surtout c'est essentiellement un improvisateur, plus qu'un compositeur.
Oui. C'est un joueur de piano, quand même.
Oui.
Improvisateur, oui. Mais la manière dont il fait sonner un piano, c'est hallucinant.
Et ce qui est très étonnant, c'est quand même la différence entre les concerts en solo et aussi le trio où il y a les derniers trios consacrés aux standards de jazz.
Ouais. Ça, c'était une révolution dans le monde du jazz pour nous tous. En plus, c'était la période où on était jeunes et on s'est pris ça en pleine figure, les premiers disques de standards dans les années, je sais plus, fin 70 par là.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est hallucinant. Et puis ça a duré pendant des dizaines d'années, et malgré le fait que ce soit toujours des standards les plus populaires, les plus ressassés, c'était d'une créativité,
d'une
densité absolument extraordinaire.
Ah, oui.
Mais on en revient toujours à la même chose. Parce que c'est pas ce qu'il joue qui compte, c'est comment il le joue. Puis il avait trouvé aussi deux acolytes qui étaient absolument fabuleux.
Gary Peacock
et oui. Jacques DiJohnette.
Ah oui, bien sûr. New Vienna, c'est une suite en 9 parties de longueur inégale de 3 à 10 minutes. Un sommet de son génie de l'improvisation. On va l'entendre, Keith Jarrett, dans la troisième partie de cette suite New Vienna, où transparaît une très grande tension sonore qui ne cesse de croître jusqu'à ce qu'à un moment le pianiste s'arrête.
Thank you.
C'était la troisième pièce de la suite New Vienna de et par Keith Jarrett, extrait de ce nouvel album publié par ECM qui a été capté lors de son ultime tournée en 2016. Le disque s'achève par un standard des années 30 très connu, Somewhere Over the Rainbow. On pense à Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. C'est un thème de Harold Arlen. Alors, on ne compte plus les reprises. Est-ce que vous l'avez joué, Hervé?
Des dizaines de fois avec des chanteurs ou même des musiciens. Et moi-même, j'aime bien le jouer. Parce que évidemment, on parlait de Keith Jarrett et puis de sa manière de reprendre les standards. Ça a remis à la mode un petit peu les standards et Somewhere Over the Rainbow fait partie des standards qui ont été beaucoup réutilisés dans cet esprit-là, quoi.
Avec Didi Bridgewater, elle l'a repris.
On faisait beaucoup d'autres, mais pas celui-là.
Voici Keith Jarrett dans Somewhere Over the Rainbow. Keith Jarrett improvisait sur ce standard des années 30, Somewhere Over the Rainbow, une sorte d'au revoir au public de Vienne, en fait un adieu, puisque cet album exceptionnel, New Vienna, est le dernier témoignage du pianiste avant ses accidents de santé qui ont stoppé sa carrière.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
On apprécie depuis longtemps le pianiste Laurent Coulondre qui a remporté 2 victoires de la musique et on remarque aussi la flûtiste Christelle Raquillet. Ils ont choisi tous les deux de collaborer pour un album acoustique très ensoleillé avec des couleurs brésiliennes. Shifting Lights, l'autre distribution. Christelle Raquillet est présente dans votre dernier album, Eric Satie Jazz Impression. C'est une superbe musicienne qui peut voyager d'un style à l'autre, comme vous, Hervé Sellin.
Oui, peut-être, oui. Oui, mais c'est ça qui est assez fabuleux chez elle, c'est qu'elle a une faculté d'adaptation, ça c'est une chose, mais elle sait tout de suite comment ça se joue, quelque part. C'est-à-dire, si elle change si elle va de la musique latine au jazz, à la musique plus rock, plus pop, elle a tout de suite le sens de comment ça s'interprète, comment ça se phrase, quel langage d'improvisation il faut utiliser. Ça, c'est assez impressionnant.
Elle a le feeling du jazz en reprenant un thème de Duke Ellington, je crois qu'il l'avait joué avec John Coltrane.
Absolument. Absolument. Mais c'est surtout que elle est solaire, en fait. Elle est solaire et elle amène ce soleil dans toutes les musiques auxquelles elle participe. Et ça, c'est une très, très belle qualité.
Vraiment une carrière à suivre.
Oui, à suivre tranquillement, parce que je pense qu'elle va... Ça va très bien se passer.
Alors, il y a dans ce disque, Shifting Lights, des thèmes d'inspiration brésilienne, je le disais, et quelques relectures, comme l'association de Ziggy de Starmania de Michel Berger avec Spain de Chick Corea.
Oui, ça c'est le... C'est bien, c'est une prise de risque aussi, ça. C'est intéressant.
Donc votre élève vous suit.
Oui. Après, est-ce qu'elle n'avait pas déjà ça dans la peau quand on l'a connue, hein?
Ziggy Spain, Laurent Coulondre, Christelle Raquillet. C'était Ziggy Spen, Laurent Coulondre piano, Christelle Raquillet flûte, un album d'une écoute très plaisante pour agrémenter les retours de plage ensoleillés, mais pas seulement.
Ah oui, oui, ça vaut mieux que ça quand même.
Bien entendu, mais c'est la période.
Oui, 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 absolument.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Virtuose de l'orgamonde B3, Emmanuel Beck, c'est un musicien majuscule qui a sa place aux côtés des plus grands jazzmen français, comme Eddie Lewis, à qui il rend hommage dans un magnifique album Eddie Maddy chez Pee-wee, distribution Soc à disque, n'est-ce pas Hervé Sellin?
Oui, c'est magnifique. Moi, je connais Emmanuel depuis très longtemps. On est à peu près de la même génération et donc on a commencé ensemble. Et c'est vrai que qui mieux que lui pouvait rendre cet hommage à Eddie, qu'on a tous connu et qu'on a tous aimé, qu'on a tous apprécié, et puis qui générait une espèce de joie de vivre et d'énergie absolument fabuleuse.
Chaleur humaine.
Ah oui, oui, oui. Puis c'était la grande époque de cette génération-là, comme bon Eddie Lewis, comme tant d'autres, c'était l'après-guerre, c'était les clubs de jazz à Paris, à tous les coins de rue. C'est la grande histoire du jazz français d'après-guerre. Donc c'est pour nous, c'est une source d'inspiration colossale. Et puis des personnalités comme Eddie Lewis, qui ensuite s'est entouré de jeunes musiciens et a continué à faire carrière et à monter des nouveaux projets. C'était un monstre sacré, Eddie.
Ah oui. On a besoin de gens comme ça dans toutes les musiques d'ailleurs, oui, dans le jazz en particulier.
Oui, puis dans la vie tout simplement aussi, des gens qui nous donnent du carburant, quoi, des gens qui nous donnent envie de leur rendre hommage, mais d'aller plus loin, de s'exprimer, et de finalement pas chercher plus loin que le plaisir, mais avec une grande exigence.
C'est ça aussi, plaisir et exigence.
Ah oui.
C'est ça la recette.
Oui. Mais peut-être plaisir d'abord.
Oui.
Pas oublier.
Absolument. Écoutons Eddie, une composition d'Emmanuel Becks, orgue, entourée par Dominique Pifarelli, violon, et Simon Goubert, batterie. Vous avez partagé la scène avec l'un des trois?
Je les connais tous bien. Peut-être celui avec qui j'ai partagé le plus, c'est Simon Goubert. Et encore, pas assez à mon goût. Parce que j'adore Simon. J'ai beaucoup d'admiration pour Dominique Pifarelli. On n'a jamais joué ensemble. On se connaît un peu. Et puis Emmanuel, piano, donc si, on aurait pu faire des duos, mais on se connaît assez bien.
Eddie, Emmanuel Becks, Dominique Pifarelli, Simon Goubert. Trio magique. Emmanuel Bex, Dominique Pifarelli et Simon Goubert, extrait de ce formidable album Eddie Maddy, récompensé par le Choc de Jazz Magazine. Beaucoup d'excellents disques, mais on est pris par le temps.
Eh oui.
Merci beaucoup Hervé Sélin pour votre participation et vos commentaires dans cette émission.
Merci à vous, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous.
Encore un grand bravo pour votre nouvel album absolument délicieux, Eric Satie Jazz Impression, sorti chez Indécence Calliope. Bonne journée et bel été.
Merci, à vous aussi.
Quant à moi, Christophe Gravereau, je vous retrouverai demain matin, dimanche, 11h pour une nouvelle balade musicale et je remercie encore Francky qui était à la technique.